Que Dieu soit béni. Nous sommes tellement heureux d'être ensemble et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Toujours beaucoup de joie d'être ensemble et de partager avec, je dirais, beaucoup de respect, de sérieux, ces paroles qui ne viennent pas d'un homme, mais de la bouche du Seigneur. Alors je vous invite à incliner vos fronts, nous allons prier le Seigneur de bénir ces moments. Éternel notre Dieu, nous voulons venir devant toi avec beaucoup de respect. Seigneur, qui sommes-nous ce matin pour encore avoir le privilège d'entendre ta voix nous parler? Merci de le faire encore. Mais nous réalisons aussi notre responsabilité d'ouvrir nos cœurs. Tellement de choses, à commencer par l'ennemi de nos âmes, voudrait que nous ayons un cœur fermé en cet instant. Alors ce matin, devant cet auditoire, je te prie au nom de Jésus, que nos cœurs soient libres devant toi, libres peut-être de te repousser, mais libres aussi d'aller vers toi et de répondre favorablement à ta parole. Seigneur, sers-toi de chacun d'entre nous comme tu le veux ce matin. Nous l'avons chanté, nous sommes comme un vase fragile. Tu es ce potier, Seigneur, et nous voulons une fois de plus, en ouvrant ce Saint-Livre, nous remettre pleinement entre tes mains afin que tu nous façonnes selon ta volonté. Amen. Et oui, le Seigneur a besoin de chacun de nous, qui que nous soyons, quels que soient les dons. C'est vrai que parfois il y a des dons particuliers qui sont un peu plus évidents ou montrés d'une manière particulière à l'Église, quand on prêche l'Évangile, quand on conduit la louange, quand on intervient. Mais chacun d'entre nous, même si ça ne se voit pas, à commencer par le domaine de la prière, Dieu a besoin de chacun de nous et nous devons le réaliser. Nous sommes une famille où chacun est utile. Alors, le titre de notre message ce matin, nous allons le trouver dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er et à partir du verset 13. Je le dis à chaque fois, mais voilà, je le redis peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude. On va lire beaucoup de textes ensemble. Voilà, certains, je vous citerai que la référence, si je pense à vous la donner, si vous prenez des notes. Mais plusieurs textes, on les lira ensemble. Parce que c'est chaque fois une occasion bénie d'ouvrir la parole et le Saint-Livre ensemble et de se laisser surtout imprégner de ce que le Seigneur a voulu nous laisser dans ces textes. Romains chapitre 1er verset 13, l'apôtre Paul s'exprime ainsi aux Romains. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. L'apôtre Paul exprime en ce début de lettre le vif désir qu'il a de se retrouver avec les chrétiens de Rome, des hommes et des femmes qui se sont déjà engagés avec Dieu, mais Paul a ce souci, ce désir dans son cœur d'affermir leur foi et de leur apporter toutes ces facettes qu'apporte l'Évangile, tous ces domaines où encore ils sont peut-être hésitants et fragile. Il a besoin aussi peut-être de recevoir parmi eux, hein, il dit, afin de recueillir quelques fruits. C'est comme un encouragement réciproque où lui-même pourra, au travers de l'Évangile, les édifier. Ses frères qui sont déjà dans la foi, le souci, le fardeau, la pression dans le cœur de l'apôtre Paul, c'est de leur annoncer pleinement l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce qui va retenir notre attention ce matin, c'est dans quel état d'esprit il va à Rome. Il y va sans crainte. Il y va sans peur. Et il dit au verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Et ce sera le titre de notre message ce matin, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Et la première question que je vous pose, elle est toute simple, « Qu'en est-il pour chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle, dans notre quotidien? Qu'en est-il? L'apôtre Paul, lui, il va à Rome sans crainte, sans peur. et sans honte de l'Évangile. Je dirais ce matin qu'il y va avec fierté d'annoncer les vérités du Seigneur. Nous vivons dans une société qui renie complètement les valeurs chrétiennes. Pourtant, ces valeurs ont largement contribué à l'édification de notre société, quand on regarde tout ce qui est le domaine du milieu médical, du milieu social. Et on peut dire que cet éloignement de Dieu, de tous nos contemporains, à la fois nous offre peut-être une belle opportunité de marquer la différence. Combien aujourd'hui c'est simple de marquer la différence, tellement les gens sont éloignés de Dieu. Mais c'est aussi une difficulté importante pour chacun d'entre nous, de vivre ouvertement notre foi. Il faut le dire, dans notre quotidien, au milieu des membres de notre famille, au milieu de notre travail, n'en parlons pas, avec aussi tout ce thème de la laïcité qui est complètement perverti par certains aujourd'hui, nous vivons une difficulté importante de vivre ouvertement notre foi. Aujourd'hui, le simple fait de dire que je vais le dimanche matin à l'église, alors à minimum vous avez un regard étonné, un peu plus haut c'est moqueur, on vous prend pour peut-être un illuminé. Vous savez, le dimanche matin aujourd'hui c'est consacré pour le sport. Quand vous venez à l'église, vous croisez beaucoup de gens qui sont sur leur vélo, édification du corps physique, mais l'âme. Je crois que le reniement de nos contemporains à l'égard de Jésus est tel que si Jésus était au milieu de nous présent physiquement comme il l'a été il y a plus de 2000 ans, il serait condamné à mort. Et nous avec lui. Nous vivons dans ce contexte-là. Et la question que nous pourrions nous poser, comment nous pouvons vivre notre foi au quotidien? Devons-nous nous cacher? Devons-nous être terrorisés par la peur? Devons-nous nous taire? Alors c'est vrai que nous ne vivons pas la persécution physique comme plusieurs de nos frères et sœurs par-delà la terre, et nous bénissons le Seigneur pour ça, et cela nous encourage, comme nous l'avons fait encore ce matin, comme notre frère Jonathan l'a plusieurs fois rappelé, à prier et à intercéder pour eux, et à être conscients que si nous voulons suivre Christ, nous aussi nous pouvons être appelés à vivre et à être persécutés dans ce monde, nous allons le repartager encore ce matin. Mais si nous ne vivons pas une persécution physique, je peux vous assurer que nous vivons dans notre société une persécution morale que nous prenons et que nous subissons en permanence de plein fouet. Devons-nous avoir honte ou au contraire, comme Paul, devons-nous porter fièrement les valeurs de l'Évangile et les exprimer sous toutes ses formes, dans nos paroles, mais surtout, on y reviendra tout à l'heure, dans nos comportements, nos choix, nos décisions. Vous savez, certains font des marches et portent fièrement leurs convictions. Je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous aussi porter fièrement les valeurs de l'Évangile et nous le devons, et comme l'apôtre Paul, être animés de ce vif désir d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui se perdent autour de nous, et nous devons le faire sans avoir aucune honte de l'Évangile. Et ce message est là pour vous encourager, vous, et je suis dans le même bateau que vous, moi avec vous, que nous puissions être encouragés dans les circonstances où parfois nous nous sentons un peu écrasés, ou parfois la timidité, la peur peut nous envahir pour afficher les valeurs chrétiennes que le Seigneur a implantées dans nos vies, pour tout simplement marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, alors que ces quelques pensées que nous partageons ce matin nous aident à être stimulés à porter fièrement l'étendard de Jésus-Christ dans notre monde. Alléluia. Alors je voudrais juste vous dire trois choses essentielles à notre vie de chrétien dans ce monde. Ce sera les trois parties de notre message. La première chose que je voudrais revoir avec vous, c'est que nous devons, c'est un devoir pour chacun d'entre nous, nous devons annoncer l'Évangile. Ça sera notre première partie. Mais nous devons aussi savoir que nous allons rencontrer de l'opposition quand nous le ferons. Ça sera la deuxième partie de notre message. Et puis, nous terminerons, c'est que quand nous rencontrons cette opposition, il nous faudra, parfois, il nous faudra du courage. Eh oui, du courage. Ça sera notre troisième partie. Alors, cette première partie, nous devons annoncer l'Évangile. C'est comme un devoir pour chacun d'entre nous. Alors peut-être redéfinir cette expression que nous utilisons souvent couramment dans notre langage. Quel est ce terme évangéliser ? Alors évangéliser signifie tout simplement annoncer l'Évangile. Évangile qui signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour tous ceux qui se perdent, que Jésus-Christ est venu pour les sauver. Évangéliser signifie annoncer une bonne nouvelle. Vous le saviez, je le rappelle juste pour aussi dire que évangéliser ne consiste pas du tout à faire du prosélytisme. Et nous devons être vigilants. Je sais que la société nous garde de ce côté-là, mais dans notre cœur, nous devons quand même bien faire la différence, puisque l'histoire dans son ensemble du christianisme a montré les excès de notre zèle pour le Seigneur parfois. Non, évangéliser ne consiste pas à faire des adeptes, des gens qui seraient un peu arrachés de force ou à qui nous imposerions nos idées. Ce n'est pas pour faire croître les membres de nos églises. Cela consiste tout simplement, évangéliser, à permettre aux gens que nous côtoyons autour de nous, à permettre aux gens d'être en contact avec la parole du Seigneur, qu'ils le découvrent à lui, qu'ils le rencontrent à lui, qu'il y ait une rencontre personnelle, afin qu'ils puissent croire en lui selon la liberté que le Seigneur leur donne, mais aussi qu'ils puissent être sauvés. Et pour comprendre ce qu'est véritablement l'évangélisation et notre mission, je crois, à chacun d'entre nous, lisons un texte ensemble dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26 et le verset 17. Un contexte où l'apôtre Paul sera obligé de se défendre devant ce roi. Et il rappellera et tout ce qu'il a pu vivre et comment il a reçu cet ordre de mission de la part du Seigneur. Actes 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. » C'est ça l'évangélisation. Voilà le but de la prédication de l'Évangile, et ce qui était valable du temps de l'apôtre Paul l'est toujours aujourd'hui, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans l'ignorance de la grâce de Dieu, afin qu'ils croient en Christ, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Peut-être que parfois, en réservant certaines réunions pour l'évangélisation, ou peut-être parfois en faisant, vous savez, des rencontres missionnaires, vous savez, des temps d'évangélisation particuliers, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que peut-être parfois on a cloisonné, et on a peut-être oublié que porter et annoncer l'Évangile, c'était l'affaire de chacun d'entre nous dans chaque instant de notre vie. L'apôtre Paul, qui bien sûr a reçu un appel particulier pour sa vie, a dit par ailleurs « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons aussi cette mission, et je dirais un peu « Malheur à nous aussi si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle ». Voulons-nous garder pour nous ce trésor ineffable ou au contraire, voulons-nous le partager autour de nous? Nous devons annoncer l'Évangile. Pourquoi est-il si important d'annoncer l'Évangile? Eh bien, plusieurs points. Parce que déjà, évangéliser est un ordre de mission que le Seigneur nous a laissé. Jésus a dit, en s'adressant aux disciples, avant de les quitter, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et comme l'a rappelé notre frère tout à l'heure, en tant que disciple, ce qui fait la différence peut-être entre un adepte, quelqu'un qui va adhérer plus ou moins à des convictions religieuses, et un véritable disciple, c'est qu'il marche dans l'empreinte des pas de son maître. Et le disciple, sa caractéristique, c'est qu'il veut marcher dans l'obéissance. Si le Seigneur nous donne un ordre de mission d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, nous devons le vivre. Je vous ai lu Marc 16, verset 15. Et quand je dis que la marque distincte du disciple, c'est l'obéissance, je rappelle juste ce verset, les paroles de Jésus, quand Jésus a dit « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, dans Matthieu chapitre 7, verset 21. » Annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, est un ordre de mission que nous avons reçu de la part du Seigneur. Pourquoi c'est si important aussi pour nous d'évangéliser? Regardez avec moi cette autre raison dans Marc chapitre 5, à partir du verset 18. Lorsque Jésus va chasser ses démons, il est écrit ceci, 5 verset 18, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est tout simplement aussi une occasion de partager. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a plus de joie à donner. Partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie, les expériences que j'ai pu vivre. L'occasion, évangéliser, c'est une occasion de partager. Une autre raison aussi pourquoi il est important en tant que croyant, eh bien de rentrer dans cette dimension, eh bien c'est tout simplement que le Saint-Esprit nous a été donné pour évangéliser. Il est écrit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, y compris Toulouse. » Alléluia. Actes chapitre 1er, verset 8. « Ne sommes-nous pas les bénéficiaires d'hommes et de femmes qui ont diffusé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont pu nous parler du Seigneur Jésus. À notre tour, soyons conscients que des multitudes sont assoiffées de la parole du Seigneur. Oui, une autre raison pourquoi il est important, et nous devons comprendre que c'est comme un devoir d'annoncer l'Évangile, parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour cela, pour diffuser. Vous savez comment le Seigneur leur avait dit d'attendre ce moment où le Saint-Esprit viendrait sur leur vie. Ils ont été sages d'attendre l'effusion de cet Esprit et ils ont pu être ces témoins efficaces à la gloire de Dieu. Certains croyants, pour certains, on dirait que la présence du Saint-Esprit, c'est quelque chose un peu, vous savez, comme une option, quelque chose qui est pour notre propre vie. Mais c'est son action dans notre vie qui fera de chacun de nous de véritables témoins. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne force, le Saint-Esprit nous donne courage, il agit directement au fond de notre cœur. Et peut-être une autre raison aussi, je m'arrêterai là-dessus pour ce premier point ce matin, pourquoi il est important et nous devons, en tant que chrétiens et en tant que disciples de Jésus-Christ, annoncer l'Évangile. Eh bien, tout simplement parce que évangéliser, c'est avertir les hommes. Un peu, nous sommes comme un phare. Vous savez, ce phare qui est là, et qui, son rôle, c'est d'avertir les bateaux qu'ils vont droit à un naufrage s'ils vont dans cette direction. Et vous savez, nous sommes, nous aussi, comme des avertisseurs dans ce monde. Si nous ne le faisons pas, beaucoup n'ont pas conscience qu'ils vont droit vers la perdition. Quand Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », il a rajouté ceci « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. » Marc 16, verset 16. Évangéliser, c'est avertir les hommes du jugement à venir. Pierre le rappelle ainsi, il dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi, Dieu juge des vivants et des morts. » Acte 10, verset 42. Peut-être un texte ensemble dans Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Lorsque Paul est à Athènes, il dit ceci. Nous sommes un peu comme des avertisseurs en annonçant la bonne nouvelle. Nous prévenons, nous sommes comme des avertisseurs et c'est vraiment l'occasion d'avertir les hommes du jugement à venir. L'apôtre Paul parle en ces termes, acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Ce que nous venons de lire, nos contemporains ne l'entendront pas à la télévision. Ce n'est pas dans le journal de 13h, 20h, dans... ça ils ne l'entendront pas. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ et nous devons dans notre vie réaliser que nous sommes impliqués à annoncer autour de nous la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. C'est important, nous voyons donc au travers de ces quelques versets que l'Écriture nous rappelle l'importance pour nous en tant que chrétiens d'annoncer l'évangile. Alors nous passons sur cette deuxième partie, l'annonce intégrale. J'insiste sur le mot « intégral » parce que l'évangile parfois est tellement dilué dans certains milieux. Je dirais que l'annonce intégrale de l'évangile va entraîner beaucoup de réactions. Il faut le savoir, et ça c'est notre deuxième point, nous aurons de l'opposition. Il faut dire que l'évangile est en contradiction totale avec la sagesse humaine. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, il faudrait, si vous avez le temps, relisez tout le contexte de ce chapitre, mais lisons juste verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Paul va mettre dans ces quelques versets cette opposition très nette entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Il est dit ceci au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et plus loin, au verset 23, il dit ceci. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais elle est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Nous devons être convaincus que l'évangile que nous annonçons n'est pas une doctrine, c'est une puissance. L'évangile ne s'adresse pas à notre intellect, mais à notre cœur. Vous savez, dans notre zèle à partager les vérités évangéliques, parfois, nous cherchons à convaincre par la raison. Alors, ce n'est pas inutile de le faire, c'est pas... Moi-même, il y a certains sujets qui me passionnent tellement que ça me donne l'occasion parfois de discuter. Mais soyons pétris de cette pensée, c'est que ça ne s'adresse pas l'évangile à la raison humaine, parce que l'évangile est en totale opposition, en contradiction, dirons-nous, avec la sagesse humaine. C'est pour cela que c'est normal, quelque part, si nous annonçons l'évangile intégral, de s'attendre à de l'opposition et de la contradiction. Il est écrit ceci, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à en devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Un signe qui provoquera la contradiction dans Luc chapitre 2, verset 34. Opposition entre la sagesse de Dieu, contradiction avec la sagesse humaine. Il faut dire aussi que l'évangile, et nous l'avons vu encore ce matin au travers des prophéties, L'évangile est là pour révéler l'état des cœurs. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément. Quand on lit les évangiles, nous voyons que la seule présence physique de Jésus dans beaucoup de circonstances mettait le péché en lumière. Les cœurs étaient dévoilés, d'où souvent, malheureusement, des manifestations de colère, de mépris, où plusieurs fois ils ont même voulu attenter à la vie de Jésus. Regardez ce texte dans Luc chapitre 4, et après vous me direz si vous voulez toujours être disciple de Jésus. Luc chapitre 4, verset 24, excusez-moi de le dire aussi simplement, peut-être même de manière déplacée, quand on pense à celles et ceux qui, par-delà la terre, aujourd'hui se rencontrent au péril de leur vie. Mais c'est vrai que, marchant à la suite et à l'empreinte de Jésus, nous sommes aussi appelés à vivre ces oppositions et ces contradictions. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous vivons en paix et d'une forme de liberté que ce le sera toujours aussi. Luc 4, verset 24, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent contents. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. » Là, vous savez, l'évangile qui révèle l'état des cœurs. « Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. » Amen, ce n'était pas son heure. Alléluia. Jésus n'a pas cherché à plaire aux Juifs. Sans cesse, il leur a dit la vérité. C'est ça l'évangile, la vérité, avec un grand V. Même si c'était difficile à entendre, quelles que soient les circonstances, Jésus annonçait l'évangile, il le vivait dans son intégralité. Comme le disait un pasteur de passage dernièrement, nous devons être inquiets. Lorsque parfois des pécheurs au milieu de nous peuvent se réjouir de la bonne ambiance et se sentir bien au milieu de nous, sans qu'ils ne soient jamais interpellés sur la nécessité de se repentir. L'évangile, c'est quoi ? Repentez-vous. Et c'est quelque chose qui peut percuter un cœur. Et que Dieu soit béni pour le jour où nous avons été confrontés, nous aussi, à ce message bienveillant de la part de Dieu. Et où nous avons choisi de demander pardon à Dieu. Mais quel combat, que de lutte, colère parfois. Et la vérité, ça ne plaît pas toujours. Et tous ceux qui, à la suite de Jésus, annonceront l'évangile de manière intégrale, seront aussi, je suis désolé de vous le dire, confrontés aux mêmes réactions. Regardez le témoignage du premier martyr, Actes chapitre 7, Étienne. Acte 7. Vous savez, quand on lit certains témoignages de ce qui se passe dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays persécutés, on s'en demande différent. Mais je vous le redis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la persécution morale est immense dans notre pays. Et nous devons être non seulement enseignés, nous devons être conscients de ces choses, et porter fièrement les valeurs de l'Évangile, peut-être même parfois, comme l'a été Étienne, au péril de notre vie. Acte 7, 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. C'est ça l'évangile, la vérité, les cœurs qui sont dévoilés. L'évangile est en totale contradiction avec la mentalité de ce monde. Vous me direz, c'est normal, le prince de ce monde, c'est le diable. Et je dirais que quelque part, chaque fois que l'évangile est annoncé, tant mieux s'il y a une forme d'opposition, il faut normalement qu'il en soit ainsi. L'évangile n'est pas basé sur des compromis. Il doit bousculer les cœurs pour les amener à la repentance. Et cette proclamation de l'évangile en contradiction avec la sagesse humaine ne peut qu'attirer mépris, colère, vous l'avez peut-être expérimenté déjà autour de vous. Sommes-nous prêts à le supporter? Oui, nous avons pris conscience que nous devons évangéliser, que nous devons annoncer la bonne nouvelle, mais nous devons être aussi conscients que lorsque nous le ferons, nous serons peut-être sujets de mépris, de rejet, de colère peut-être parfois. Sommes-nous prêts à le supporter et pourrons-nous dire comme l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Peut-être que la crainte, la timidité parfois peut envahir nos cœurs et il y a certaines situations où, je voudrais terminer par ce point, parfois il faut du courage, il faut du courage pour annoncer l'évangile. C'est notre troisième partie. Alors je voudrais quand même dire et insister sur ce point, ouais, c'est qu'il nous faut être sages. Dans notre proclamation, il faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, l'apôtre Paul, on l'a lu tout à l'heure, il avait un vif désir d'annoncer l'évangile donc à ces chrétiens de Rome, mais il le dit lui-même, il a été empêché de le faire. Dieu connaît les temps, Dieu connaît les circonstances, et nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il ne s'agit pas, parce que je n'ai pas honte, il ne s'agit pas de parler à tort, et à travers. Mais la question ce matin, c'est surtout de savoir quand l'occasion est là, quand la porte est ouverte, quand l'occasion m'est donnée de parler, de témoigner de Jésus-Christ, est-ce qu'à ce moment-là, la honte, la timidité ou la crainte me retiendra d'annoncer l'Évangile? Certains, vous savez, pour surpasser la timidité ou la peur ou la honte, ils sont un peu exubérants, vous savez, pour proclamer l'Évangile. Attention, dans ce domaine, il y a eu beaucoup de dégâts. Et nous savons qu'il est parfois difficile pour un cœur qui a été harcelé à s'ouvrir à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez comment le Seigneur s'y prend. Et moi, je suis émerveillé dans chaque situation. On dirait qu'à chaque fois, le Seigneur Jésus a une attitude, un temps particulier, une parole. Et j'aime à penser que nous prions tout d'abord, c'est vraiment la base de notre relation avec le Seigneur pour apporter la bonne nouvelle autour de Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur travaille les cœurs, parfois ça prend des jours, des semaines, des années. Et nous devons nous aussi être sensibles à la voix de Dieu et ne pas briser un processus que peut-être le Seigneur a engagé depuis des années dans un cœur. Peut-être que parfois, au lieu de ressasser indéfiniment les paroles de l'Évangile, appliquons-nous à le vivre intégralement dans nos vies. Les gens, vous savez, sont beaucoup plus sensibles aux témoignages vécus qu'à des milliers parfois de paroles. D'ailleurs, ce qui est parfois très néfaste, c'est lorsque les gens voient en nous le contraire de ce que nous avons pu leur dire. Il faut parfois beaucoup de courage. Et dans ce thème que nous partageons aujourd'hui, eh bien, je le redis, ce qui est important, c'est de savoir lorsque la porte est ouverte, lorsque, effectivement, je ne suis plus empêché et que l'occasion est là, est-ce que je suis libre dans mon cœur et est-ce que je compte sur le Saint-Esprit pour me donner cette force pour témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Vous savez, quand on est ensemble dans l'Église, et Dieu merci pour cela, les choses sont faciles. Nous sommes dans la joie lorsque nous partageons nos témoignages, nos expériences, lorsque nous débattons sur certains textes de la parole de Dieu, mais à l'extérieur, combien les choses sont si différentes. Et parfois, il nous faut beaucoup de courage. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 57, encore reparler de cette expérience de Pierre. Non pas pour pointer du doigt sur Pierre, mais pour nous rendre compte que Dans certaines situations, eh bien, on peut être enflammé de zèle pour le Seigneur, et dans d'autres circonstances, c'est beaucoup plus difficile de partager ce qu'il y a vraiment au fond de nos cœurs. Matthieu, chapitre 26, verset 57, c'est au cours de l'arrestation de Jésus, un contexte très particulier où la peur, beaucoup d'émotions en tout cas, se sont mêlées dans le cœur des disciples. Et il est écrit ceci: « Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. » Verset 69. « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Mais certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Qu'aurions-nous fait à la place de Pierre ? Nous ne sommes pas là pour juger. C'était une question pratiquement de vie ou de mort pour Pierre. Mais quelle expérience douloureuse. Lorsqu'il était avec Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, lorsque nous sommes rassemblés dans un lieu comme celui-ci, il avait dit à Jésus, « Mais même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Il l'avait dit, Pierre. Et il est même écrit, « Et tous les disciples ont dit la même chose. » Pierre s'est repenti, Pierre a pleuré amèrement, et il s'est peut-être souvenu de ces paroles du Seigneur Jésus, qui sont quand même quelque part aussi des paroles d'encouragement, parce que le Seigneur connaît les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Jésus avait dit ceci, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc chapitre 8, verset 38. Dieu connaît, Dieu sait le mépris, le rejet qui peut être un frein aussi pour nous dans notre vie d'annoncer l'Évangile, cette opposition parfois violente. Et c'est pour cela qu'au travers de ce texte, il nous montre que la honte et que le mépris, ici-bas, n'est rien à côté de cette honte qui couvrira un jour celles et ceux qui auront méprisé la grâce de Dieu. Il est écrit ceci, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternel, dans Daniel chapitre 12, verset 2. Comme je le disais en introduction, nous vivons un monde que je qualifierais hostile à Jésus-Christ. Alors vous me direz, on est dans un lieu, on peut faire des démarches, mais que sur le plan moral, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Nous sommes dans un milieu hostile aux valeurs de l'Évangile. Je voudrais conclure par ces mots. Je crois que Dieu œuvre pour le salut de tous les hommes. Et il ne cesse de le faire. Et il nous rend participants à cette œuvre, comme nous l'avons partagé. C'est une grâce, avoir été sauvé, sentir que Dieu a besoin, que l'on peut être utile entre ses mains. Mais c'est aussi pour nous une grande responsabilité. Nous pouvons coopérer avec Jésus en manifestant jour après jour dans notre vie la vie de Christ. Ça, c'est le témoignage par excellence dans tout ce que, dans nos choix, tout simplement. Vous savez, dans On est dans un monde, vous savez, avec des valeurs. On prendrait que l'exemple du mariage. On prendrait que ce sujet-là. Et pourtant, qui est un sujet important, quand nous avons des enfants qui grandissent, parce que nous vivons à côté des gens, est-ce que je peux accueillir. Prenons que le thème du mariage. Quelle dérive de notre monde et de notre société. Nous pouvons, par nos choix, par des paroles sages, données quand le Saint-Esprit nous ouvre la porte, eh bien nous pouvons manifester la vie de Christ autour de ceux qui nous entourent, les membres de nos familles, ce sont les plus proches, nos collègues de travail, tous ceux que nous sommes appelés à rencontrer. Nous sommes là pour manifester jour après jour la vie de Christ. Et je le redis, nous devons porter fièrement les valeurs de l'Évangile. Parfois, nous ne savons pas comment nous comporter par rapport à tout ce que nous entendons et tout ce que nous disons, mais nous pouvons être fiers de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour harceler ni faire pression sur ceux qui nous entourent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons parfois démolir un processus que Dieu a mis en place patiemment. Nous devons montrer Christ. Montrer Christ. Peut-être pas trop le claironner ou le crier très fort sur les toits, mais le montrer. Parfois, notre enthousiasme, eh bien, il tourne à la catastrophe. Alors, demandons à Dieu toute la sagesse. N'enfonçons pas les portes, mais demandons au Saint-Esprit d'ouvrir les portes pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Je voudrais lire un dernier texte avec vous dans Colossiens, chapitre 4, verset 2. Vous savez, il y a des gens, ils sont capables dans notre société de faire des marches et tout ça pour porter fièrement leurs convictions. Je ne dis pas qu'on a besoin, nous, de faire des marches et de marcher, mais je crois que nous marchons jour après jour dans ce monde de ténèbres, et que nous sommes comme cette lumière et que nous portons Jésus-Christ autour de nous. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il est dit ceci, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'Évangile, mais je suis sage dans mes propos, dans mes paroles. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus, parfois, eh bien, il n'a pas eu peur de dire la vérité, mais comment aussi dans d'autres circonstances, il n'a pas parlé. Et nous avons besoin aussi de cette sagesse. Nous avons cette fierté dans notre cœur, nous annonçons l'Évangile de Jésus-Christ sans honte, ni peur, ni crainte, mais aussi, eh bien, nous nous conduisons avec sagesse avec ceux qui sont dehors. Ayons du courage quand l'occasion nous est donnée de témoigner de Jésus-Christ. Je termine par cette parole de l'apôtre Paul à Timothée. L'apôtre Paul dit ceci, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Alléluia. Prions le Seigneur un instant. Seigneur, nous te bénissons chacun d'entre nous pour tous les hommes, toutes les femmes qui, à genoux, ont prié pour chacun de nous. Nous te bénissons aussi pour tous les hommes et toutes les femmes qui nous ont parlé de toi, ou qui peut-être sans dire un mot, ont témoigné de ta grâce par leur vie. Merci parce que sans eux, nous ne serions certainement pas là ce matin. Merci pour ta grâce. Tu veux que nous soyons les uns et les autres des canaux de bénédiction pour ce monde. Oui, il part à sa perte, mais tant que la porte de la grâce n'est pas fermée, tu peux, Seigneur, appeler une multitude à tes côtés. Et Seigneur, nous voulons réaliser, c'est vrai, comme nous l'avons partagé ce matin, que tu nous as donné un ordre de mission et que nous aussi, à notre tour, nous devons porter autour de nous l'Évangile de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, ne pas être gagnés par la timidité, la crainte ou la honte, mais qu'au contraire, Seigneur, quand cela est à propos, nous puissions annoncer l'Évangile intégral, afin que les cœurs soient touchés, bouleversés, amenés à salut, Seigneur. Nous ne voulons pas rester insensibles et garder pour nous ce bon trésor. Mais nous réalisons que dans ce monde qui part à la dérive, des multitudes encore, Seigneur, sont assoiffés de toi. Ils ne le savent peut-être pas, ils ne te cherchent pas. Mais Seigneur, merci de nous placer jour après jour. Seigneur, déjà au milieu des membres de notre famille, comme cette lumière qui éclaire le monde, Seigneur. Oui, comme je disais tout à l'heure, ce phare, Seigneur, qui indique que si nous allons dans cette direction, nous faisons naufrage. Seigneur, merci. Celui qui croira sera sauvé. Nous le croyons encore, cela est vrai pour une multitude. Seigneur, merci de nous aider les uns les autres à être des témoins fidèles à la gloire de ton nom, de ne pas nous laisser apeurer ou intimider par les assauts de l'ennemi dans ce monde qui voudrait que nous vivions notre foi d'une manière cachée, mais nous voulons porter fièrement les valeurs de l'Évangile telles que tu nous les as implantées dans notre cœur et telles que tu nous les révèles par ta parole. Seigneur, nous comptons sur toi pour que cette parole que nous avons partagée ce matin porte du fruit à la gloire de ton nom et jusque dans la vie éternelle, lorsque nous verrons toutes celles et ceux que nous avons pu amener à Jésus-Christ pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.